Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonjour. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Cette émission sera consacrée, ainsi que d'ailleurs l'émission de la semaine prochaine, à notre ami Gérard Zucchetto. On revient là aux sources des troubadours, on revient là aux sources de l'Occitanie et des poètes occitans. Alors pour les poètes occitans, il y a une actualité, c'est que le 22 septembre, je crois, a lieu le salon des... Non, le 22 septembre a lieu, pardon, je confonds beaucoup avec les dates, a lieu la journée des patrimoines.
Bon, 21 et 22, oui.
21 et 22, voilà. Et donc le dimanche 22 septembre, il y aura un récital de poésie à l'hôtel d'Assesa, donc le siège de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, dans le Salon Blanc. Il vous suffit d'arriver dans la cour de l'hôtel d'Assesa et vous serez pris en charge. On vous conduira vis-à-vis des acteurs donc de ce petit récital poésie qui est donné par les maîtres de jeu et les mainteneurs donc de l'Académie des Jeux Floraux. Mais ce dont je voulais parler, c'est du fait... le 22 septembre, il y a également Alem sur Garcia, le 21, Alem sur Garcia, qui va présenter son livre Convivencio, dont nous avons rendu compte ici avec lui-même, bien sûr, nous avons fait une émission avec Alem sur Garcia, sur ce livre. Eh bien, il sera présenté dans le cadre des journées du Grand Bazar à la cave Poésie, donc rue du Thor, chez René, le bazar de René. Voilà. Vous avez d'ailleurs, le programme est sur dans toutes les bonnes bibliothèques de Toulouse, hein, vous le trouverez facilement. Voilà. Et ce livre Convivencio est publié aux éditions Trobavox, donc de Gérard Zucchetto. Nous avons le plaisir d'avoir dans ces studios et que nous saluons.
Adicia, c'est de toutes, bonjour. Et le 21 septembre, justement, oui. Mon ami Alem sur Garcia, parce que le 21 septembre, je serai moi-même avec mon ensemble pour la création Ligams.
Ligams.
Une création nouvelle, Ligams, ce sont les liens, au musée des Jacobins. Dans le cadre de cette grande exposition
des troubadours, donc il faut absolument aller voir sur le catharisme, hein, aux Jacobins. Alors
cette création Ligams, en fait, c'est une photographie de la société médiévale 12e et 13e siècle, du temps de Raymond 5, 6 et 7. Les comtes de Toulouse, qui ont eu cette particularité, c'est d'accueillir des troubadours qui leur étaient favorables et des troubadours qui leur étaient défavorables. Par exemple, c'est pour cela que j'ai appelé ce spectacle Ligams. Parce que ça paraît quand même
totalement aujourd'hui, ça.
Incongru, oui. de voir qu'à la même cour, il y a Foulquet de Marseille, oui, qui devient inquisiteur de Toulouse, et Raymond de Miraval, qui est bien sûr un partisan et du comte Raymond VI, ou également Guillaume Figuera, qui écrit un Cervantes contre Rome et qui chante dans les rues de Toulouse. Voilà, c'est un petit peu sur tous ces aspects. Que se passe-t-il à la cour des comtes de Toulouse pendant cette période de la croisade contre les Albigeois, que tout le monde commence à réciter, etc.
Oui, on en parlera peut-être au cours de cette émission, peut-être mieux au cours de cette émission, puisque la semaine prochaine, nous serons déjà le jour même, non, dans la semaine.
C'est à la fin de cette semaine.
Oui,
C'est ce samedi. Oui. Et puis, à vrai dire, je suis aussi venu aujourd'hui à Toulouse pour retrouver mes amis Marty et Paco Ibáñez, un spectateur qui se produisent, bien évidemment, comme tout le monde le sait, à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Voilà. Alors, Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est le... Quel jour?
Ah, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 19h.
D'accord. Donc aujourd'hui, mardi, Claude Marty et Paco Ibáñez, donc deux statures mythiques hein, de la chanson quand même, et de chansons poétiques, avec l'héritage que donne quand même qu'a laissé Claude Marty, qui est quand même le précurseur quand même de tout ce qu'a été ce mouvement de la chanson occitane. Après, c'est quand même lui qui a démarré tout ça dans les années 60.
Hein? Oui, et puis dans le même temps, Paco Ibáñez faisait connaître les poètes dissidents espagnols. Voilà. Alors, très important.
Moi, je l'ai vu pour la première fois, c'était en 64, hein, et c'était au festival, dans une petite salle, c'était pas dans la grande salle, petite salle, du festival de Carcassonne. Où il était invité avec un chanteur catalan que tu dois connaître évidemment, Gérard, qui est Xavier Ribalta.
Oui, oui.
Xavier Ribalta, alors c'est un géant sur le plan physique, et ils étaient ensemble, donc, et Paco Ibáñez, une voix qui était absolument, comment dirais-je, envoûtante, et qui s'accordait vraiment à. Au poème de Lorca qu'il avait mis en musique avec un talent, je ne crois pas qu'il ait été égalé, enfin je ne veux pas hein, mais je ne veux pas dire du mal de ceux qui ont été faits après, mais arriver à sortir Góngora, à sortir Lorca comme il a fait, et tous les poètes après, même les poètes sud-américains qu'il a mis en musique, avec cette chaleur, avec cette justesse de ton, pour moi là on est au niveau du génie. Vraiment.
Oui, on peut dire que Paco, il a l'entendement profond des poètes qu'il revisite. D'abord, certains, il les a connus très bien. Et puis, quand il met un poète en musique, il met vraiment le poète dans.
Oui, c'est le texte.
Dans tout son être en musique. Et ça, c'est quand même intéressant. Et pour revenir au concert de ce soir, ils ont appelé ça « Sin memoria, no esperanza hein, ». Sans mémoire, pas d'espoir. Et on ne peut mieux choisir, je trouve, de leur part, par rapport au contexte actuel où on a tendance à oublier tout et à vivre sur des choses sporadiques.
Oui. Oui, ce qui est le cas souvent dans ce genre de situation. En 1938, c'était le cas aussi. Les gens vivaient au jour le jour. Ils ne voulaient surtout pas. D'abord, ils voulaient oublier le passé et ils ne voulaient surtout pas voir l'avenir, même s'ils le pressentaient. Et on est peut-être aussi, et tu as raison, et non, nous allons en parler au sujet de tes publications, mais nous sommes certainement dans une période qui ressemble un peu à ça. À ça. Voilà. Alors, pour revenir à Paco Ibáñez, pour moi, c'est vraiment un génie extraordinaire. Et il faut dire combien ces gens, je parle de Marty, combien Marty a fait connaître quand même la poésie occitane grâce à ses chansons. Et combien Paco Ibáñez a fait découvrir, y compris aux Espagnols d'ailleurs, la poésie espagnole grâce également à ses poèmes qu'il a mis. En musique.
Hein. Mais on peut dire, vous savez, qu'il a popularisé quand même une poésie espagnole qui était quand même.
Très difficile.
Qui était quand même une poésie intellectuelle.
Voilà.
Moi, nous étions avec Sandra à Séville à l'occasion de ses 85 ans. Et j'ai entendu quand même tout le théâtre de la Maestranza chanter. Oui. Andaluces de Jaén, aceitunos altivos. Ça veut dire quand même que dans la musique espagnole d'aujourd'hui, il a quand même laissé une empreinte évidente.
Oui. Et il faut rappeler que quand il a commencé, il ne pouvait pas aller en Espagne. Il a été, moi je me souviens de. Dans les années. Fin des années 60, début 70.
J'avais la famille en Barcelone et quand je parlais de Paco Ibáñez, on me regardait en disant qu'est-ce que c'est quoi. Voilà, extraordinaire.
Bon, donc ce soir, 19h, Saint-Pierre des Cuisines. S'il reste des places.
Ah ben là, c'est complet.
Voilà, bon.
Ouais, un petit théâtre, mais tant mieux. Ouais. Alors Gérard, nous allons parler maintenant de Gérard Zucchetto. Donc Gérard Zucchetto, l'homme complet, c'est-à-dire à la fois musicien, créateur de musique, compositeur, mais aussi linguiste d'une certaine façon, c'est-à-dire...
Par obligation. Par obligation, parce que quand on étudie les troubadours, il vaut mieux être un peu linguiste.
Oui. Et grand érudit, donc, de cette littérature extraordinaire, dont il faut toujours parler, c'est les troubadours. Voilà. Alors, un grand ouvrage sur la trobe, hein, très, très grand ouvrage, qui a été, à mon avis, qui est unique maintenant, quand même, que le rassemblement de toutes les créations donc des troubadours. C'est un ouvrage que tu as mis combien d'années pour faire ça?
Alors,
c'est une vie, quoi.
C'est-à-dire, la troba, c'est vrai que bon, c'est unique parce que ça n'a jamais été fait. Oui. Mais avec mon ensemble, nous avons enregistré effectivement les 248 chansons qui sont notées avec les mélodies dans les manuscrits médiévaux et qui sont attribuées à des troubadours, plus les 32 chansons anonymes, puisque à cette époque, qui sont notées aussi avec la mélodie dans les manuscrits. Et c'est un travail qui s'est étiré entre 2006 et 2011 pour les enregistrements et la post-production. Et pour ce qui concerne le dernier volet, c'est-à-dire les chansons anonymes, ça a été réalisé il y a maintenant 3 ans. Donc ça fait en fait 260 chansons de troubadours dont on connaît les mélodies dans les manuscrits. D'accord. Et pour cela, je n'ai pas fait ça tout seul, parce que je pense qu'on pourrait pas faire, on pourrait, mais ce serait pas intéressant. Et je me suis entouré de chanteuses et chanteurs d'horizons différents, d'approches d'interprétation différentes, et bien sûr d'instrumentistes qui ont la bonne maîtrise des instruments qu'on utilisait à l'époque, qui sont aujourd'hui des instruments recréés, on va dire ça comme ça, mais pour essayer de trouver un petit peu la substantifique moelle à la fois du son des mots, mais aussi le son de l'instrument. Et pour cela, nous y sommes mis à 40 quand même. Oui. Voilà. C'était pas une petite oui. équipe.
Mais il y a un travail de recherche, je suppose, avant.
Donc, ça, on ne parle pas, bien sûr, de tout le travail de recherche en amont qui se chiffre en dizaines d'années.
Voilà, évidemment. Je disais, c'est le travail d'une vie, ça. Ah, oui.
Mais quand c'est fini, c'est bien.
Oui. Alors, on a ce trésor. On a ce trésor maintenant à notre disposition. Hein, et il faut quand même que les gens d'ici soient conscients de ça.
Oui, je pense que c'est le cas, hein, puisque je reçois régulièrement, moi, sur ma boîte mail, des demandes de textes, des demandes de musique et d'enregistrement, parce que pour les jeunes qui veulent chanter les troubadours, c'est bien d'avoir un exemple. Moi, je dis toujours, il faut surtout que vous fassiez votre propre chemin, mais si vous voulez l'exemple, pourquoi pas. Mais c'est... Quand on interprète une chanson de troubadour, finalement, on se retrouve soi-même avec sa voix, son rythme, son souffle, sa respiration à chanter le troubard. Oui. Et on ne peut pas chanter, par exemple, Guy Roriquet comme on chanterait Raymond de Miraval ou Bernard de Ventadour. Ce sont des entités totalement différentes. Et c'est là-dessus que je travaille essentiellement, notamment avec l'université de Stanford et l'université de Barcelone, à l'UAB, l'université autonome de Barcelone, c'est sur l'interprétation. Parce que interpréter les troubadours, il n'y a pas les troubadours. Il y a un troubadour, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et cela quand même sur 2 siècles. Donc ça veut dire que La façon d'écrire change, la façon de composer les mélodies change, l'évolution des instruments change. Il faut être conscient de ce large contexte pour chanter les troubadours.
Alors, ces troubadours, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient réussi ce tour de force. D'abord, comme troubadour, il peut y avoir aussi, tu en as parlé tout à l'heure, l'évêque de...
Le Foulquet de Marseille.
Le Foulquet de Marseille, qui a été inquisiteur, c'est-à-dire qui a fait partie...
Ça, c'est une histoire vraiment étrange, oui.
Il y a eu des troubadours aussi qui ont été des chevaliers, guerriers, je pense à Bertrand de Born, par exemple. Hein.
Alors, chez les troubadours, contrairement à une idée reçue, ce n'étaient pas tous des aristocrates, loin de là, à commencer d'ailleurs par Foulquet de Marseille, dont le père était un importateur de vin, quoi. Mais chez les troubadours, il y a les troubadours d'origine très modeste, hein, comme Marc Cabru, comme Bernard de Ventadour, et des troubadours de la classe nobiliaire, comme le comte de Poitiers, par exemple, ou Bertrand de Born, et d'autres, hein, ils sont assez nombreux. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que ils écrivent sur des registres différents, certes, mais sur une même réflexion. C'est-à-dire que c'est à la fois une réflexion artistique, une réflexion musicale, une réflexion poétique et une réflexion culturelle, une réflexion politique, c'est très important. Donc ça veut dire qu'une chanson de troubadour, comme dit Jacques Roubaud, c'est une œuvre unique. Et il le dit à juste titre en prenant la fleur inverse de Rainbow d'Orange, par exemple, parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire une chanson. Le troubadour Bernard Marty, il témoigne, il dit « Moi, j'écris des chansons tous les jours, tous les mois, toute l'année, deux ou trois par an. » Donc ça veut dire qu'une chanson devient une œuvre d'art. Et d'ailleurs, c'est défini par Arnaud Daniel comme art de troubard qui va avec art d'amour, art des chantards, etc. Donc on s'inscrit dans une thématique qui est artistique au départ. On forge une chanson dans un atelier et qui devient tout à coup une chanson que tout le monde connaît, qu'on va chanter et qui a une vie personnelle, puisqu'elle est chantée ici ou là, dans des cours totalement différentes, ou encore une fois dans les rues de Toulouse ou autre, et la chanson devient vraiment largement plus qu'un simple objet artistique qui serait uniquement diffusé dans le milieu aristocratique. C'est pas ça.
D'accord. Et il y a aussi tu parlais de la dimension politique, hein, les Cervantes ont été...
Alors, bien entendu, alors, après, on va pas parler des... Oui. On peut parler beaucoup des troubadours, parce que c'est un sujet énorme. C'est en même temps le fond de la culture occitane, c'est quand même important à rappeler, comme tu l'as fait, c'est-à-dire que tout part de là. La littérature occitane commence à exister à partir de des troubadours, hein, c'est-à-dire c'est un concept.
Et l'amour pour toi.
et l'amour pour toi.
Voilà. Et d'ailleurs, il faudra que l'on revoir, si tu veux bien, qu'on fasse une émission sur justement cet amour pour toi dans la poésie des poètes occitans. Ce qu'il est devenu, parce que c'est intéressant aussi. Hein, je pense à quelqu'un comme Franck Bardoux que tu connais bien.
Oui, on peut citer Aragon aussi. Oui. on peut en citer beaucoup qui ont fait des références aux troubadours, chez les poètes, chez les philosophes, même chez les psychanalystes d'ailleurs.
Alors Gérard, je disais, tu étais musicien, compositeur de musique. Érudit des troubadours, donc toute une œuvre pour mettre en exergue donc cette, ce patrimoine extraordinaire qui a changé l'humanité, on peut dire, d'une certaine façon, qu'est-ce qui est le troubard, mais également tu es poète, bien sûr, et éditeur de poésie, hein, éditions Troubavox. Alors, c'est, aujourd'hui, nous allons parler de ton œuvre personnelle, avec, si tu le veux bien, nous allons commencer par l'ultime cantique. Est-ce que ça te, tu aurais préféré peut-être Ombre de la Loupe?
Oui, c'est non, l'ultime cantique, d'ailleurs, c'est l'année des cantiques, oui. Puisque avec Sandra Hurtadoros, nous avons à la fois enregistré cantiques, qui sont des poèmes de Max Rouquet et de moi en occitan, que Sandra a mis en musique, et également des poèmes de Miguel Hernández que Sandra a mis en musique. Et c'est tout un travail récent, nouveau, c'est une création qui a un an à peine, et qui a été orchestré, donc tout ce travail de composition a été orchestré par notre ami Claire Masson, qui est violoncelliste, pour orchestre de chambre. Donc c'est chant piano, orchestre de chambre. Et en parallèle de cela, avec Sandra, nous avons écrit un recueil de poèmes. Enfin, j'ai écrit les poèmes. Elle a fait de la poésie photographique,
oui, qui est magnifique,
pour illustrer. Et c'est un peu le fruit de nos voyages là, puisque c'est vrai qu'en regardant, qui est paru aussi cette année, il y a beaucoup de photos là, je vois des États-Unis, là, de la Californie, mais aussi de Narbonne, de la plaine narbonnaise, puis les bords des étangs, etc. Et ça s'appelle l'ultime cantique. Donc, qu'est-ce que c'est l'ultime cantique? Ben, c'est finalement le voyage interne de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le changement du monde dans lequel il vit, et où il voit que les valeurs de fraternité et de consapevolezza, comme on dit en italien, disparaissent. Et il invite les autres à être optimistes et de continuer toute voile dehors. Voilà.
J'ai repensé donc à l'ultime cantique, qui est un livre merveilleux, hein, à tout point de vue, pour les textes et pour les photographies, qui sont des photographies saisissantes. Hein. Vraiment, je suis donc véritablement professionnel, hein, en noir et blanc. Il y a là un travail qui est vraiment un travail énorme. Hein, je ne pense pas qu'un professionnel aurait fait mieux. C'est magnifique. Les photographies sont absolument magnifiques. C'est un niveau de perfection technique. Alors, je ne dis pas, déjà dans le artistique, n'en parlons pas, mais sur le plan technique aussi, c'est absolument vraiment très réussi. Et l'ultime cantique, donc ce que tu viens de dire, hein, qui vient de cette espèce, on sent quand même une grande mélancolie dans tout ça, qui est la mélancolie de celui qui constate un peu la fissure du monde. Et j'ai retrouvé une pensée de Ernst Jünger, bon, qui est un Allemand, donc grand écrivain allemand, qui a été officier à Paris pendant l'occupation, qui a fini centenaire d'ailleurs, hein, il avait dépassé 100 ans, et qui dit ceci: la véritable paix suppose un courage qui dépasse celui de la guerre. Elle est activité créatrice, énergie spirituelle. On l'a conquiert en maîtrisant d'abord son démon intérieur, en bannissant de sa vie personnelle la haine, source de discorde. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que dans cette phrase, c'est une phrase que l'on devrait un petit peu rappeler et dire à tout le monde, hein. Voilà. Alors nous allons faire une petite... Qu'est-ce que l'on va écouter maintenant, Gérard?
Alors, on va de cantique,
c'est ça.
Le premier titre de cantique qui s'appelle Cantique de la Brugo, dont le texte est de Max Roquette, la musique de Sandra Hurtado-Rossi, donc pour Cantique Symphonique Orchestra et des orchestrations de Claire Masson.
On écoute. Belle voix donc de Sandra Hurtado-Rossi. Nous allons écouter maintenant Gérard Zucchetto, des extraits de l'ultime cantique, le dernier cantique, poème en occitan, avec la traduction en français, bien entendu.
D'un vos veis qui sont clauses à las luzu d'arrieros cap mai d'albo nubelo per esclair a lujuan Et sur le pont immobile, scavion rigut del fum, demor une douce rictus, per l'usson son ultime. Mon bras usat set tibo, la masse oubris en caro, am un courage grand per la neide refusa. Dans mes yeux qui sont clos aux dernières lueurs, plus une aube nouvelle pour éclairer le jour. Sur les lèvres immobiles qui avaient ri de tout, il reste un doux rictus pour l'ultime complainte. Mon bras usé se tend et la main s'ouvre encore, avec un grand courage pour repousser la nuit. Tout ce qu'avem biscuit s'ouvrir piura tout jaune. C'est d'une vostro memoria où il demeure l'amour. Anatsa ou sel kuntaire et cantas la cansu, vous autres bignairou, plantas bignos nubelos, de pausi a vos trepes, de rius belugue jans, l'aigo claro dels moons, l'espère d'une vostre sueis. Ce que l'on a vécu survivra pour toujours, si dans votre mémoire reste encore l'amour. Allez, oiseaux conteurs, et chantez la chanson, et vous, les vignerons, plantez vignes nouvelles. Je dépose à vos pieds, rivière scintillante, de l'eau claire des monts et l'espoir dans vos yeux. Vendran des jours nouvelles, sur la désespérance, sur la terre endolentido, per nostre grand saccage. Belsun nous océans dormissun, din la terre, l'eau fruitche saborous, au mai pressus que l'or. L'or non est qu'un métal, qui l'usisse al soleil. Et nous malpasse l'humout qu'une amie a troubat. Des jours nouveaux viendront sur la désespérance, sur la terre endeuillée par notre grand saccage. Grands sont les océans qui dorment dans la terre. Leurs fruits sont savoureux et plus précieux que l'or. L'or n'est rien qu'un métal qui brille au soleil et ne vaut pas le mot qu'un ami a trouvé.
Voilà. Bon, il y a toute une... Je disais une grande mélancolie quand même, mais en même temps, il y a cette espérance que l'on retrouve dans ces textes, c'est-à-dire à la fois le constat. Et c'est important le constat, parce qu'il faut être lucide aussi. Le poète est celui qui justement peut faire le constat. C'est pas un être éthéré qui ne voit pas ce qui se passe, il est là justement pour cette prophétie. Et le poème est toujours une prophétie. Et je pense que tes poèmes aussi, ce qu'on vient d'écouter, c'est aussi une prophétie. C'est-à-dire, bon, voilà, on est là, il y a ça, mais la main s'ouvre encore avec un grand courage pour repousser la nuit. Il va falloir repousser la nuit. Il va falloir repousser la nuit. Donc ça veut dire que d'abord on a pris conscience que la nuit est là, qu'elle peut arriver, et puis cette espérance qui doit gagner en définitive, parce que il y a dans ce que l'on voit dans tous tes textes, c'est cette mobilisation pour cette espérance. C'est difficile ce qui arrive, c'est dur, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est un peu ce que l'on retient de l'ensemble de ce texte. Ne pas baisser les bras face, oui, au monde qui est le monde de maintenant, c'est-à-dire un monde qui est désopilant parce que il a rompu toutes les promesses. Les promesses de paix sont rompues et les promesses d'amour, de fraternité, elles sont largement rompues aussi. Donc il faut repartir.
Comme écrivait Max Rouquette, hein, toute la paix du monde fait un silence de mort.
De verre extraordinaire.
Nous sommes là à la lisière d'un moment de l'humanité qui a une évolution qui ne va pas justement vers l'humain et l'humanité et l'humanisme. Donc le poète, il est comme quelqu'un sur son voilier. Il va pas dans la direction où le vent tourne, il va dans sa direction à lui. Le tout, c'est d'ajuster ses voiles pour aller vers là où on veut aller. Et je crois que ça m'intéresse beaucoup parce que je fais de la voile et que j'ai un voilier. cette comparaison avec le voilier,
oui,
parce que on navigue toujours au vent contraire.
Oui.
Et c'est important de voir que sur une immensité, on y est peut-être un peu seul, mais pas tout seul. En fait, nous ne sommes jamais tout seuls. C'est ce qui permet justement de continuer. Et en mer, il y a beaucoup de solidarité. Tout le monde se salue en mer.
Mmh. Oui.
Voilà. C'est dans cet ultime cantique, je l'ai écrit pour mes enfants, à vrai dire.
Oui.
Et je ne sais pas si ça peut leur apporter quelque chose, mais bon, sûrement, puisque ils sont suffisamment curieux pour lire, en tout cas ils liront jusqu'au bout. Mais pour moi, c'était aussi le moment de faire un petit constat. De toute façon, on fait tous les jours des petits constats, des petits, des grands, des moyens. Notre position aujourd'hui dans cette société, c'est alors celle des poètes, comme celle des musiciens, comme celle des artistes, en règle générale, n'est pas très enviable, mais elle est nécessaire, ultra nécessaire.
Oui, mais s'il n'y a plus d'artistes, on est foutu, quoi.
Voilà, d'ailleurs, vous savez, il y a 3 jours, c'était l'anniversaire de Victor Jara, et ce grand poète, chanteur, guitariste chilien, à qui l'on a coupé les doigts et qu'on a exhibé dans le stade de Santiago. Et ça veut dire qu'il faut se rappeler de ça. Il faut se rappeler qu'une dictature va... par ses comportements extrêmes, va d'abord s'attaquer aux artistes.
Oui, souvent en premier d'ailleurs.
Voilà.
Souvent en premier. Oui, alors j'ai connu, moi, enfin, j'étais à Buenos Aires en 1976, donc je sais ce que c'est, ce dont tu parles. Et je sais aussi avec quelle vitesse on oublie ça. On oublie ça.
Ben, c'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, qui est un monde du zapping permanent, on a tendance à oublier les traces de mémoire.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et les poètes sont là, justement, pour relier le passé au présent et pour faire entrevoir l'avenir et dire que l'avenir peut être aussi différent de ce vers lequel on le pousse. On peut faire dévier un peu les choses. Il y a les artistes ont ce pouvoir aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont si violemment poursuivis par les régimes autoritaires et quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Tous les artistes ont
bien sûr
ça, dans le monde entier. Est-ce qu'on va écouter un autre morceau là, Gérard?
Alors moi je vous propose d'écouter la chanson de Max Rouquette, un texte de Max Rouquette, Las Herbos d'Aigos.
On écoute.
La mar de ste bruce de lo juste la pinedo de maca alors le te tumpe de ca grido danzarello al lungo mero d'imbrucas las derbos de gusto nunca
voilà toujours la voix magnifique, hein, sublime de Sandra Hurtado Ross. Tu es un homme béni quand même, hein, Gérard, hein, une femme extraordinaire, photographe, musicienne, chanteuse.
Je ne sais pas si on peut dire le béni, mais nous sommes bien complices, oui.
Mais c'est déjà une marque de bonheur quand même extraordinaire. Ne serait-ce que ça, ça permet de contempler le monde avec peut-être un peu plus de sérénité.
Mais ça permet déjà de voir qu'on n'est pas seul.
Oui, oui, oui.
Et pour faire une chanson, il faut toujours un auteur, un compositeur, un interprète. Donc, forcément, nous sommes complémentaires.
Alors, revenons à l'ultime cantique. Donc, il y a, dans ton lit, ces textes. Alors, tu expliques que, bon, c'est la période de Covid, etc. Une période un peu de repliement, hein, qui sont à l'origine de ce travail. Mais on sent là-dedans, comment dirais-je, une grande recherche de savoir, oui, de savoir ce que nous allons devenir les uns les autres.
Oui, parce que ça ne dépend que de nous. Hein.
Oui. Oui, c'est ce qu'a dit Junger, là, ce que j'ai lu tout à l'heure.
Voilà.
Ouais, ça dépend de nous.
C'est. Nous sommes notre souverain de nous-mêmes.
Oui.
On peut décider, bien sûr. Mais là, je veux bien lire un texte là où j'ai cette réflexion justement. Biatchats, biatchats, per de cami fugaces, al prigun de vos autres, al maïven que se sapio, explorats, explorats, los confis del saber, et las fous de scienzo, totos las conneissenzo, caminats, caminats amb vostres certituds, per los deserts salvatges, un non n'y a que vostre ombro. Voyagez, voyagez, par des chemins fugaces, au plus profond de vous, au plus loin que l'on sache, explorez. Explorez les confins du savoir, les sources de science, toutes les connaissances. Marchez, marchez avec vos certitudes dans les déserts sauvages où il n'y a que votre ombre. Agachats, agachats maïluen calzures uns, où le soleil dormis din la mendre claro. Escutats, escutats o parpallu de nuet e la ragno que fialo l'estelo del rosal. Siats mai attentius al biben alentur, caparo vostro bido, vostro infimo presencio. Regardez, regardez plus loin qu'aux horizons où s'endort le soleil dans la moindre clarté. Écoutez, écoutez le papillon de nuit et l'araignée qui tisse l'étoile de rosée. Soyez plus attentif aux vivants tout autour qui protègent votre vie, votre présence infime. Non crengats mai la peau, de perdre so offert, lugauk de parteja, so que vous es donat. Et non crengats mai, lu que prendra vostra main, une offrande pulido, d'in sus veis tan radioses, non crengats mai la bouche. Des luz qu'encantaran busses à l'unisson, nous bostres mai tan gran. Ne craignez plus la peur de perdre ce qui est offert, la joie à partager ce qui vous est donné. Ne craignez plus celui qui vous prendra la main, une jolie offrande, dans ses yeux si radieux. Ne craignez plus la voix de ceux qui enchanteront les voix à l'unisson, votre si grand et moi.
C'est, on dirait, j'ai une exhortation dans ce texte.
C'est optimiste.
Oui.
On ne peut pas être que pessimiste.
Oui. Il y a aussi ce thème cette idée du voyage, Bon, qui peut être aussi le voyage intérieur. Hein. Là, tu parles d'un voyage intérieur, bien entendu. Il y a la poésie est un voyage intérieur. Il y a une intériorité qui était une évidence dans ton poème. Mais cette façon qu'ont maintenant les poètes de voyager, je pense par réaction justement à ce qu'est devenu ce monde de l'immédiateté, de l'illusion, de l'image, de la fugacité permanente, il y a ces poètes qui s'en vont. Je pense par exemple à Joël Vernet qui écrit Journal d'un contemplateur. Je pense à Yves Leclerc, dont nous avons parlé le mois dernier, qui écrit Le village de l'idiot, et qui ont ce besoin de partir seul souvent, et d'aller dans des contrées qui sont des contrées peut-être qui, pour certains, seraient des contrées inhospitalières, en tout cas des contrées loin des, je dirais, de la marée touristique, et qui ont besoin de contempler le monde comme ça, de cet endroit. Yves Leclerc, qui a fait paraître ce très beau livre, Le village de l'idiot, aux éditions Pierre Ménard, il est parti dans un coin de Chine, dans un village de Chine, tout à fait anonyme, etc. Il appelle le village de l'idiot, et où là, il va retrouver, il est nourri, lui, de textes bouddhistes ou taoïstes, il va retrouver cette intériorité qui, en définitive, dans la rapidité de notre monde, fait tellement défaut qu'il y a une carence terrible, qui est une carence, spirituelle, une carence métaphysique. Et alors ces poètes, et toi, je pense que dans ce que j'ai lu, il y a cette inspiration aussi au voyage. Et puis quand on regarde ces photos, etc., c'est important le voyage chez toi, d'aller ailleurs aussi. On voit que c'est important. Il y a cette démarche aussi, cette démarche intérieure, de te placer un peu en témoin du monde, de regarder le monde avec une certaine distance, hein, ce que fait Joël Vernet. Bon, mais là, il faut beaucoup de courage, ce sont des gens où Yves Leclerc, ils partent tout seuls dans des coins très hospitaliers, etc. Il faut vraiment qu'ils aient une nécessité métaphysique profonde. Bon, et une bonne santé aussi, hein, comme je disais à Joël, il faut une grande santé pour faire ça. Voilà.
Mais il vaut mieux être en bonne santé pour voyager. Je le confirme.
Voilà. Mais il y a ce besoin aussi d'aller voir ailleurs. Et parce que d'ailleurs, on voit mieux ce qui est le chez-soi aussi.
Oui, ça. Pablo Neruda a beaucoup écrit là-dessus.
Hein,
oui. Il faut voyager, parce que ça permet d'avoir un regard distancé sur le monde. Et ça permet aussi de dépasser ces connaissances qu'on aurait tendance à restreindre autour de nous.
Oui.
Alors, Sandra et moi, nous avons voyagé de fait beaucoup. Parce que nous avons fait beaucoup de concerts à l'étranger. Maintenant, peut-être un peu moins, mais il y a eu une époque où nous faisions des concerts tornado. Je crois que nous sommes allés dans énormément, en tout cas, de pays du monde, hein, qui sont aussi différents de la France que peuvent l'être l'Irak, l'Iran, le Liban, la Norvège, la Suède, la Chine, la Russie, l'Estonie, et les États-Unis hein, aussi, et le Canada. Donc ça permet effectivement, parce que quand nous faisons des concerts, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons quand même suffisamment de temps pour nous imprégner de l'amitié relative et provisoire et fugace des personnes avec qui on va partager ce moment. C'est important parce que ça resitue un peu nos connaissances et puis notre appréhension du monde. C'est parce que les cultures sont autre. Nous, nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, dans un état policé, etc. et tout ça. Oui. Quand on va dans un pays différent, avec une religion différente, oui, on va retrouver les mêmes schémas, hein, la religion, la police, le gouvernement, bien sûr, mais on rend les choses relatives, en bien ou en mal ou autre. Et ça permet également de se pencher. Moi, ça m'a toujours intéressé, par exemple, de me pencher sur l'histoire locale du lieu où nous étions. Et par-delà l'histoire locale, forcément, on embrasse une histoire qui est beaucoup plus large. Et ceci, je dirais, c'est indispensable. C'est entre l'ethnologie et l'anthropologie et l'histoire. Ça veut dire il y a tout ce contexte intellectuel, mais avec le contexte intellectuel, de par la musique, les échanges sont totalement différents. Ça veut dire que quand on chante avec un chanteur de muezzine sur la scène de Alep, oui, comme ça m'est arrivé.
Oui, oui, tu nous en as parlé déjà. Oui,
c'est...
Oui, il y a une...
On est dans une sorte d'électrisation de notre pensée.
Oui, une transcendance dans la pensée.
De fait,
oui,
oui, oui. Parce que nous sommes complètement... en dehors de notre culture, et ça c'est très bien.
Oui.
C'est très bien pour comprendre l'autre, en tout cas.
Merci Gérard Zucchetto. Donc on rappelle les titres de tes livres, Gérard Zucchetto, l'ultime cantique, le dernier cantique, poème en occitan avec traduction en français de l'auteur, l'édition Trouba Vox.
Mais et des photographies de Sandra
Hurtado-Gross, magnifique. Et puis Gérard Zucchetto, toujours dans la même collection, des mots sous la rosa del vents, des mots sur la rose des vents, et Gérard Zucchetto, toujours donc Voz de Trovar, Ombra de la Luz, Ombre de la Lumière, poème en occitan, et toujours traduction en français de l'auteur, tout ceci aux éditions Trobaros. Voilà, Gérard, nous te retrouverons donc la semaine prochaine, si tu le veux.
Merci pour cette invitation. Adicias tutes.
Adicias.